Bonsoir, bienvenue dans Un Monde Nouveau, le magazine qui fait vibrer notre époque en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Température record, méga-feux, pluie diluvienne et inondations. Les événements climatiques extrêmes se succèdent depuis le début de l'été. Ce monde nouveau d'une planète en surchauffe, il est déjà là, sous nos yeux, et il faut bien le dire, il fait peur.
Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de parti. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Contrairement au candidat François Hollande en 2012, son ennemi à elle n'est pas la finance, mais le découragement. La finance, elle veut la faire plier, la mettre au service de la planète, pour que les banques cessent d'investir dans les énergies fossiles. Un combat perdu d'avance, diront certains, pas elle, qui a déjà plusieurs victoires à son actif. Lucie Pinson, fondatrice de l'ONG Reclaim Finance, sera notre invitée dans un instant. Le réchauffement climatique, notre deuxième invité ne peut lui non plus y être indifférent, parce qu'il menace, avec la montée des eaux, les terres de la Camargue, dont il célèbre la beauté sauvage dans son dernier long métrage. Le réalisateur Tony Gatliff vient nous présenter Tom Medina, qui sort mercredi.
Tu veux savoir pourquoi je réponds pas à toutes tes questions là? Parce qu'il y a des questions comme ça, on m'en a posé pendant 4 ans tous les jours. Les flics, les éducs, les juges, les psys, tous les jours.
Un jeune délinquant placé chez un gardien de manade camarguais, l'histoire de Tom Medina, c'est aussi celle de Tony Gatliff qui s'est inspiré de sa propre vie pour ce film fort et bouleversant.
France Inter. Sonia Khirony. Un monde nouveau.
De courage, de lutte et d'espoir, il sera donc question ce soir dans Un Monde Nouveau. I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's my corrupt, no substance to be hidden from. Now it's erupting, rough form from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly change. When you step at the heavens, you see the stars rearrange. So be
evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas lather. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, be hopeful.
Hopeful. Hopeful. Hopeful.
Curtis Harding et Hopeful, plein d'espoir, un disque France Inter. Le jeune chanteur américain signe avec ce nouveau single un beau retour depuis son deuxième album Face Your Fear en 2017. L'artiste souhaite ramener de l'optimisme et de l'espoir avec ce titre dont le clip montre les récents rassemblements du mouvement Black Lives Matter. Une bonne dose d'espoir, ça ne se refuse pas, surtout quand on doit mener le combat du siècle. Notre premier invité ce soir est plutôt dans le camp des pessimistes, ce qui ne l'empêche pas de mener avec force et détermination la grande bataille de notre époque, la lutte contre le réchauffement climatique. Sa cible, la finance qu'elle veut décarboniser. À seulement 35 ans, elle a reçu le prix Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Bonsoir Lucie Pinson.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice et la directrice de l'ONG Reclaim Finance. Et malgré votre jeune âge, vous militez, Lucie Pinson, depuis des années contre le réchauffement climatique. Pourquoi avoir choisi de cibler dans ce combat-là la finance en particulier ?
Parce que la finance, elle est derrière le monde qui nous entoure et surtout, elle est nécessaire pour accélérer la transition qui est impérative aujourd'hui si on veut qu'on permette de maintenir des conditions de vie sur Terre. Et la finance, c'est les banques, c'est les assureurs, c'est les investisseurs qui sont indispensables, encore une fois, pour financer cette transition. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que s'ils ont ponctué leur discours du mot climat, malheureusement, aujourd'hui, ils sont toujours derrière l'accélération du dérèglement climatique en finançant les projets qui sont incompatibles avec le maintien d'une vie sur Terre.
Alors, ce combat, je le disais tout à l'heure, il pourrait paraître perdu d'avance. Comment convaincre ces grandes institutions financières qui, par nature ou par définition, n'ont comme objectif que le seul profit de se mettre au service du climat ? À première vue, on se dit que c'est mission impossible, mais pas vous.
Alors, il faut les convaincre ou souvent les contraindre, en effet, à opérer les changements. Et soyons très clairs, hein, pour l'instant, c'est un échec. Hein. L'accord de Paris a été adopté en 2015. Depuis, les banques françaises, comme les autres acteurs financiers de la place de Paris, mais aussi au niveau international, multiplient les prises de parole sur leur soi-disant engagement dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Et pourtant, leur financement ne cesse d'augmenter aux énergies fossiles qui accélèrent ce chaos. Aujourd'hui, on voit bien, on entend parler de la fonte au Groenland, fonte des glaces massives. On a des feux partout, des sécheresses. On est en véritable situation d'urgence climatique et malheureusement la finance aujourd'hui accélère ces phénomènes-là. Alors après, on a quand même opéré des choses. On a opéré des choses au niveau de notre ONG Reclaim Finance, qui est affiliée à la Fédération des Amis de la Terre. Notre technique, c'est d'abord de déjà alerter et dévoiler la réalité derrière le discours de ces grands acteurs financiers. Donc on mène énormément de recherches pour comprendre leurs activités dans le moindre détail. Nous les rencontrons bien évidemment parce qu'on est extrêmement prescripteurs. Donc on va leur proposer des mesures clés en main à mettre en place pour opérer des ruptures nécessaires dans leur manière de fonctionner. Et malheureusement, comme cela suffit rarement, il faut souvent en venir à la pression publique, donc la dénonciation déjà, ce qu'on appelle le name and shame, oui, pour mettre en avant l'écart entre leurs pratiques et leur discours.
Dialoguer d'abord et taper après ?
Tout à fait.
Et ça marche, les menaces comme ça, auprès des grandes institutions financières, de révéler publiquement certaines de leurs pratiques ? Vous sentez que ça peut leur faire peur ?
Alors ça marche, oui, bien entendu, parce que il faut bien comprendre que si le dérèglement climatique est un risque de très très long terme pour ces acteurs financiers, puisque bien entendu ils mettent en péril les conditions de leur opération, on parle notamment pour les assurances d'un monde qui deviendrait de plus en plus inassurable, mmh, avec des phénomènes climatiques extrêmes qui s'accélèrent et donc il est plus possible d'assurer les populations. Mais ça, malheureusement, pour que ça opère des changements vraiment structurels dès maintenant, c'est de trop long terme. Donc on a un problème là de temporalité et nous on va taper sur un autre point qui est leur réputation, qui leur coûte également à court terme très très cher, parce qu'ils ont investi beaucoup dans la protection de leur image de marque, dans leur logo. Et donc nous, c'est là qu'on va taper en dévoilant la réalité derrière leur beau discours en matière climatique. On va dévoiler le fait qu'ils financent des grands projets de terminaux d'exportation de gaz de schiste qui pourraient demain arriver en France, des projets en Arctique, des projets en Afrique, de forage pétrolier, etc., etc. Et donc ça, aujourd'hui, on voit bien que ça a quand même réussi à enclencher des mesures de transformation au niveau de leurs opérations, notamment sur le secteur du charbon. On a convaincu l'intégralité des grands acteurs de la place de Paris, qui, il faut le rappeler, est une grande place financière au niveau international. Les banques françaises sont les quatrièmes, forment ensemble la quatrième plus grande place bancaire au monde. Mmh. Donc c'est vraiment colossal. Et donc on les a convaincus à force de pression et également de négociations et, je dirais presque, d'éducation, à mettre un terme à leur soutien aux entreprises qui aujourd'hui menacent notre avenir en développant de nouveaux projets dans le secteur du charbon. Mais ça, bien entendu, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une victoire. Mais il a fallu des années de bataille et beaucoup d'échecs avant d'en arriver là.
Alors, il y a des avancées sur le charbon, moins sur le gaz et le pétrole de schiste, c'est ça ?
Alors aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que la place de Paris n'a absolument rien fait de significatif sur le pétrole et le gaz. On a un ministre de l'économie et des finances qui est très conscient du problème. Bruno Le Maire a appelé les acteurs financiers de la place de Paris à adopter des politiques de sortie des pétroles et gaz non conventionnels. Derrière ce terme un peu barbare, c'est les sables bitumineux, les gaz et pétrole de schiste, les opérations en Arctique, tout ce qui est on parle des opérations les plus polluantes et les plus risquées à la fois pour le climat, mais également pour la biodiversité et les écosystèmes. Malheureusement, ça impliquerait que les banques françaises et les investisseurs français, les assureurs français arrêtent de soutenir sans condition des grandes entreprises comme Total. Et malheureusement, on voit bien que on en est très loin, puisque Total a publié un plan soi-disant climat qui cache en vérité une augmentation de sa production d'hydrocarbures et notamment le développement de nouveaux projets en Arctique.
Donc c'est que de la com.
L'intégralité quasiment de ces investisseurs ont soutenu ce plan-là, qui est un plan qui nous mène droit dans le mur. Donc on voit bien qu'il y a un grand écart, en effet, entre leurs grands discours en matière climatique, leurs engagements de très long terme, et la vérité et la réalité de leur pratique sur le court terme.
La finance et l'environnement, est-ce que c'est antinomique ?
Alors, c'est antinomique dans le sens où on peut difficilement attendre que les grands acteurs de la place de Paris deviennent décroissants. Ce qui est pourtant nécessaire si on veut maintenir des conditions de vie sur Terre. Il va falloir renoncer à des points de PIB, ça c'est certain. Maintenant, il y a d'autres gens dans le secteur financier. Il y a plein d'initiatives qui se développent, qui sont extrêmement exaltantes et qui apprennent à faire autrement et à financer des projets qui ont du sens. Et ça fait quand même partie du monde financier.
Par exemple ?
Par exemple, si vous êtes un épargnant, vous pouvez placer votre argent auprès de Énergie Partagée qui va s'en servir pour financer le développement d'énergies renouvelables citoyennes en France. Vous pouvez aussi confier votre argent à une banque comme Helios, comme le Crédit Coopératif, qui vont financer des projets qui ont du sens un peu partout en France ou au niveau international et des entreprises qui sont véritablement implantées sur le territoire.
Vous comptez sur la responsabilité des citoyens. Comment, en tant que client, savoir si ma banque, ma compagnie d'assurance est plus ou moins vertueuse ?
Alors malheureusement, c'est bien là que le bas blesse, c'est que c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver et c'est pour ça que on essaye d'alerter et d'informer la population française, parce que si vous allez voir votre conseiller financier, c'est pas de sa faute, mais il est très très peu informé lui-même sur ce que la banque d'affaires et d'investissement fait dans les grandes tours à la défense et les financements aux multinationales. Ça, il en est pas conscient, donc il va difficilement pouvoir informer le citoyen. Donc aujourd'hui, il faut malheureusement s'informer auprès des ONG, auprès de plateformes comme la plateforme Rift, qui permet quand même de comprendre dans une certaine mesure ce qu'il y a dans les placements qui nous sont vendus. Et bien entendu, si on souhaite avoir plus de transparence, il faut l'exiger, cette transparence. Et donc, il faut aussi faire entendre sa voix, aussi bien lorsqu'on rencontre son banquier qu'en soutenant des associations qui appellent le gouvernement français a poussé les acteurs financiers à faire preuve de transparence et à créer des produits financiers qui répondent réellement à la demande des Français. Parce qu'aujourd'hui, si vous les interrogez, la majorité de la population française souhaite que son argent aille à la transition écologique et au développement des territoires.
Vous essayez aussi, Lucie Pinson, de convaincre en interne les salariés de ces grands établissements financiers pour qu'eux-mêmes poussent leur entreprise à changer de logiciel. Est-ce que vous observez un changement dans la nouvelle génération de ces salariés ?
Tout à fait. Alors, il est très clair déjà qu'il y a un changement générationnel. Donc, de facto, la lutte contre le dérèglement climatique, qui est une lutte majeure qui concerne la majorité de la population française, entre dans les grandes entreprises. Maintenant, il faut enclencher une une envie de transformer de l'intérieur, parce que encore beaucoup de personnes sont en désaccord avec leur direction, mais se taisent. Mmh. Voilà. Donc, de facto, en fait, se rendent complices de des pratiques du groupe pour lequel ils travaillent. Donc, nous, on les invite fortement à faire entendre leur voix, puisque la transformation ne pourra se faire que si ils sont des citoyens actifs et des salariés actifs au sein de leur entreprise, et non qu'il y ait une dichotomie majeure entre quand même les 8 heures qui passent dans la journée à travailler pour un grand groupe et ce qu'ils pensent de leur canapé le soir à la maison.
On va écouter Lucie Pinson. Emmanuel Macron, en avril dernier, c'était lors du sommet climat organisé par les États-Unis à l'initiative de Joe Biden.
Il nous faut transformer en profondeur notre système financier. Nous l'avons engagé avec le Network for the Greening of the Financial System, NGFS, que la Fed vient de rejoindre et je m'en félicite. Avec la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, nous avons mené aussi tous ensemble durant ces dernières années une initiative profonde, transformante. Le One Planet Summit a permis de réunir des fonds souverains, des asset managers, des private equity pour tous s'engager derrière cette méthodologie commune. Ces initiatives font maintenant référence, changent la finance mondiale. La France prendra toutes ses responsabilités dans les prochains mois pour aller plus loin sur le sujet de cette finance au service du climat.
Bon, moi j'ai pas tout compris, on va pas se le cacher, Lucie Pinson, mais au-delà du jargon de l'American business, est-ce que vous y croyez à la volonté d'Emmanuel Macron, qui connaît bien le sujet, hein, il a été banquier d'affaires avant la politique, de mettre la finance au service du climat?
Ben non, le banquier qui est à l'Élysée, malheureusement, pense, bien entendu, il est convaincu, puisque c'est les mêmes intérêts qu'il défend, que l'autorégulation va marcher, que les grandes banques, les grands assureurs, les grands investisseurs vont se prendre en main et nous sauver. Malheureusement, ça ne marche pas et on le voit bien qu'on est dans une... que les banques françaises ont augmenté leur financement aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris, depuis 2015, et qu'aujourd'hui, elles sont ensemble les quatrièmes financeurs au monde aux énergies fossiles. Donc malheureusement, l'autorégulation, ça ne marche pas, il faut passer à la contrainte. Et là, le gouvernement français n'y est pas du tout, puisque toutes les initiatives qu'il nomme ne sont pas issues directement de son gouvernement et ne sont pas accompagnées de contraintes et d'un système de sanctions en cas d'absence de rupture opérée par les acteurs financiers. Maintenant, il ne faut pas s'en étonner non plus, puisque aujourd'hui même, le gouvernement français est en train d'analyser une possible garantie publique, un soutien pour un projet en Arctique qui s'appelle Arctic LNG et dans lequel on va retrouver Total et Technip, une entreprise française.
On termine, Lucie Pinson, avec la question rituelle de cette émission. Quel est, selon vous, l'objet du futur ou l'objet qui manque au futur ?
Un détecteur de greenwashing, ça pourrait être pas mal, étant donné que bon là on va quand même vers une société de contrôle et on peut.
Alors le greenwashing, quand même, je précise, c'est les entreprises qui se donnent bonne conscience ou qui communiquent sur la question de l'environnement, alors que dans les faits, elles font rien ou pas grand chose.
Tout à fait. Et comme là aujourd'hui, on voit quand même que le climat c'est une préoccupation majeure, toutes les grandes entreprises s'y mettent et malheureusement il y a tout dedans et c'est très très dur d'y s'y retrouver pour le citoyen lambda. Et donc un détecteur omniscient de greenwashing, ça ferait du mal aux oreilles parce que ça biperait beaucoup, mais ça serait quand même salvateur.
C'est noté, on va essayer de vous commander ça. Merci beaucoup, Lucie Pinson, d'être passée ce soir par le studio de France Inter.
Merci à vous.
Certains ont dit les fous ont vu danser dans les rangs et les rues, ont cru dur comme fer, comme mon cœur était mou, que je chevauchais le fou. Certains y ont vu un refus, ont juré que j'attrapais le ciel à main nue, que j'en faisais des barricades dans la rue. Et
Baghello regarde chez Almost Music, le batteur toulousain du groupe australien Tame Impala depuis 2012. Julien Barbaghello poursuit en parallèle une carrière solo. Il compte déjà à son actif 4 albums, dont le dernier en date, Les Grands Brûlés, Tarabust, en partenariat avec France Inter, est sorti dans les bacs en mai dernier.
France Inter. Sonia Khironi. Un monde nouveau.
Et le monde nouveau s'écrit chaque jour sur France Inter, à la surface et en souterrain. On continue d'explorer les variations de notre époque. J'accueille pour cela Pablo Maillet, journaliste à Ouzbek Erika, le trimestriel qui explore le futur. Bonjour Pablo.
Bonjour Sonia.
Et Joseph Ghosn, directeur de la rédaction du mensuel Vanity Fair. Bonjour à vous Joseph.
Bonjour Sonia.
On commence avec vous Pablo et vous revenez sur le retrait des Jeux Olympiques d'une superstar de la gymnastique américaine, Simone Biles, qui s'est justifiée, et c'est inédit, dit en évoquant sa santé mentale.
Et oui Sonia, je ne sais pas si on peut dire qu'on a déjà basculé dans un monde nouveau ou dans le futur avec cette annonce, mais franchement ça y ressemble pas mal. Simone Biles, c'est une gymnaste américaine de 23 ans, elle est extrêmement célèbre, extrêmement performante. Elle est considérée comme la plus grande gymnaste de tous les temps, ça c'est l'équipe qui le dit. Oui. Bref, elle concentrait tous les espoirs de son pays pour ses fameux JO de Tokyo. Sauf que la semaine dernière, à la surprise générale, elle s'est retirée du concours par équipe en mentionnant ce que les gymnastes appellent une perte de figure, c'est-à-dire une perte de repère dans l'espace en gros, mais surtout en évoquant une pression, un stress trop lourd à porter sur ses épaules, tout simplement. Je la cite... Je n'ai plus autant confiance en moi, j'ai l'impression que je ne prends plus autant de plaisir. Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale. En fait, en 2018, Simone Biles avait déjà assumé publiquement de suivre une thérapie et un traitement anxiolytique, juste après avoir révélé qu'elle avait été l'une des nombreuses victimes de Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe des États-Unis, condamné à 60 ans de prison pour agression sexuelle et agression sexuelle sur mineurs.
Et cette année, Simone Biles a donc décidé de son plein gré de se retirer de la compétition.
Oui, en fait, quelques heures après son premier retrait de la compétition par équipe à Tokyo. Or, cette décision, qui est individuelle, évidemment, elle est peut-être le symbole d'un changement plus large et d'un tabou qui est peut-être en train de sauter dans le monde du sport. En mai dernier déjà, la japonaise Naomi Osaka avait décidé de se retirer de Roland-Garros après que les grands tournois de tennis du monde entier l'avaient menacée de sanctions. À l'époque, elle disait ne pas être à l'aise pour parler en public et ressentir d'immenses vagues d'anxiété avant les conférences de presse auxquelles elle avait fini par donc renoncer. En fait.
Oui, alors au-delà de Simone Biles et de Naomi Osaka, est-ce qu'on a d'autres exemples, Pablo, d'athlètes qui ont osé parler de ce tabou, briser ce tabou de la santé mentale?
On en a. Ces dernières années, le nageur Michael Phelps, la patineuse artistique Gracie Gold ou encore le joueur de NBA Kevin Love ont eux aussi pris la parole publiquement pour évoquer leur anxiété et parfois leur dépression. C'était un peu passé inaperçu, mais en France, il y a quelques semaines, la tenue des play-offs du championnat de basket a même été suspendue à un préavis de grève des joueurs qui demandaient une meilleure prise en compte de leur santé, de leur état de fatigue et une meilleure représentation dans les instances dirigeantes. Car au-delà de leur situation personnelle, c'est vraiment cela que déplorent tous les sportifs que je viens de citer. C'est un manque de suivi, un manque d'accompagnement de la part des structures sportives qui sont pourtant censées les aider tout au long de leur carrière. Les problèmes de santé mentale, c'est un fait social, c'est un enjeu qui traverse toutes les couches de la société. C'est un problème qui nécessite davantage de moyens et de débats. Et tant mieux si ces prises de parole courageuses permettent au monde du sport de se remettre un peu en question.
Et vive la libération de la parole. Merci beaucoup Pablo. Je signale à nos auditeurs que vous pouvez retrouver tout un dossier sur le futur du sport sur le site d'Ouzbek et Rika. On va partir au Liban maintenant avec vous, Joseph Ghosn, directeur de la rédaction de Vanity Fair. Un an, Joseph, après la terrible explosion qui avait ravagé le port de Beyrouth, où en est le pays?
Oui, un an, le 4 août, l'explosion était d'une telle violence déjà locale qu'elle a détruit une grande partie de la ville, tous les quartiers aux alentours, mais aussi dans des rayons vraiment très éloignés de ce centre de l'explosion. Et elle a aussi été tellement violente symboliquement, parce qu'on l'a vu sur tous les réseaux sociaux, quasiment en live, quasiment instantanément, et le monde entier s'en était ému. Même Emmanuel Macron avait fait le voyage jusqu'à Beyrouth, et on se rend compte aujourd'hui que finalement cette explosion a été une sorte de catalyseur d'une crise économique qui était déjà très très présente. Et aujourd'hui, la situation est assez dramatique pour les Libanais qui ont vu leur monnaie locale, la livre libanaise, longtemps indexée sur le dollar, vraiment s'effondrer. Depuis le début des années 90, la livre libanaise était vraiment accolée au dollar. Dans le pays, on pouvait payer indifféremment en dollars ou en livre libanaise. Et 1500 livres libanaises valaient 1 dollar. Et aujourd'hui, 1 dollar vaut plutôt 15 000 livres libanaises. Donc vous pouvez imaginer que le pouvoir d'achat, ça a été divisé par 10.
ça donne des conditions de vie terribles pour les Libanais au quotidien et peu d'espoir d'amélioration.
Peu d'espoir, une vraie dichotomie entre le peuple finalement, les citoyens et leurs gouvernants. Aujourd'hui, on voit vraiment des fractures entre les générations et encore récemment, une jeune journaliste francophone de L'Orient le Jour, ce quotidien donc francophone de Beyrouth, écrivait une tribune très très violente contre les hommes politiques, réclamant quasiment leur éviction, leur mort violente. Et d'ailleurs, cette tribune était accompagnée par les photos d'une jeune journaliste qui était primée un peu partout dans le monde, Myriam Boulos, qui avait fait un travail sur justement ces jeunes manifestants, pour les prendre en photo, et notamment prenant en photo les pancartes et les slogans qu'ils brandissent. Et parmi ces slogans, il y en a un qui est d'une force et d'une violence assez incroyable. Je cite en anglais, « Killing politicians is not a crime. At this point, it is self-defense. Tuer des politiciens n'est pas un crime. C'est devenu de l'autodéfense. » C'est pour vous dire le degré de haine et de violence et de séparation entre les classes.
Et alors, comment faire dans ce pays aussi divisé pour continuer?
L'impression est assez forte que les solutions vont plutôt être micro-économiques. Et on voit que certains individus, notamment des Libanais de la diaspora, exilés, ont commencé à tenter de rassembler de l'argent, rassembler des volontés pour arriver à reconstruire petit à petit, quasiment une par une, les maisons, notamment les vieilles maisons ottomanes du centre-ville. Et il y a, on peut voir sur Instagram notamment, un hashtag qui s'appelle Save Beirut Old Houses, sauvons les vieilles maisons de Beyrouth, qui permet de voir certaines maisons, une à une, d'une part ravagées et ensuite reconstruites aujourd'hui. Et c'est assez frappant. Et surtout, je ne sais pas si c'est l'esprit d'initiative locale, mais on m'a aussi raconté que certaines entreprises locales, notamment des bars, les bars sont très très florissants à Beyrouth, sont des entreprises qui aujourd'hui sont plutôt un peu déficitaires, voire ne font presque plus de bénéfices. Et bien, tous ces gens-là sont en train de s'expatrier. Et aujourd'hui, apparemment, une des portes de sortie pour les Beyrouthins, pour les Libanais, se trouve pas très loin, en Égypte, où les gens vont s'installer pour ouvrir ce qu'ils faisaient déjà à Beyrouth.
Mais est-ce qu'il y a tout de même des raisons d'espérer, Joseph, à l'intérieur du pays, pour ceux qui restent?
Il y a toujours des raisons d'espérer, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le miracle libanais. La dessinatrice et autrice libanaise, mais installée en France, Lamia Ziadeh, écrivait récemment qu'elle venait de passer un mois au Liban, qu'elle avait retrouvé un peu du Liban qu'elle aimait, qu'elle connaissait. Mais surtout, elle raconte ceci, qui est que aux élections récentes, ce sont de nouvelles personnalités qui ont commencé à émerger, notamment des personnalités issues de la société civile, qui se sont organisées par corps de métier, des avocats, des médecins, etc. Et qui, petit à petit, sont en train, sans doute, d'accéder au pouvoir et de prendre un tout petit peu la place qu'ils n'ont jamais eue auparavant. Donc ça, c'est une lueur d'espoir. Peut-être pour terminer sur une note un peu plus culturelle, un film récent qui s'appelle Memory Box, qui est en train de faire la tournée des festivals et qui sort d'ici la fin de l'année en France en salle, qui était réalisé par un couple libanais d'artistes qui s'appelle Khalil Jorej et Johanna Aditoma. Bien, ils ont fait un film qui raconte la façon dont les Libanais aujourd'hui, qu'ils soient au Liban ou ailleurs, finalement vivent avec à la fois leur passé et le présent. Et leur film, qui s'appelle Memory Box, travaille cela, c'est-à-dire la mémoire et la façon dont on vit avec. Et à la fin du film, une lueur d'espoir fait penser que les solutions viennent non pas tant du collectif ou de l'ensemble de la population, mais de l'individu.
Lutter avec son passé tout en renégociant le présent, une devise qui s'applique finalement aussi bien à Simone Biles qu'au Liban d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, Pablo Maillet de Ouzbek Erika et Joseph Ghosn de Vanity Fair, qui vient de sortir, je le signale, avec Virginie Efira, la comédienne en une, et un texte du chanteur libanais Mika qui raconte son Liban. On va parler cinéma et musique à présent, car chez lui, les deux sont toujours liés. Tony Gatliff nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Tony Gatliff.
Bonsoir.
Vous sortez après-demain, mercredi, votre dernier film magnifique, Tom Medina, une ode à la Camargue, sa nature sauvage, sa rudesse et sa beauté à travers le personnage de Tom dans lequel vous avez mis beaucoup de vous-même. On va en parler, mais d'abord, on discutait dans la première partie de l'émission avec notre invitée Lucie Pinson de la question du réchauffement climatique. C'est une question qui vous parle, qui vous préoccupe.
On sait que ça existe, on le voit. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est comme s'il se passait rien. Et c'est ça, comme ça pour tout. même pour les maladies, même pour tout. Et donc, c'est le réchauffement climatique, c'est pas rien, c'est pas juste l'image, une parole, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Vraiment grave. Et donc, et on fait rien. Hein. Et les voitures continuent. Il y en a des millions, des milliards à travers le monde. Et personne ne fait rien. Il n'y a pas de loi. C'est comme ça partout. Même pour l'écologie. C'est comme ça. En Camargue, par exemple, je vous assure que au départ, je voulais pas en parler. Mais je soulève un buisson et je vois des bouteilles dégueulasses depuis, qui sont là depuis au moins 10 ans, 20 ans. Et donc, voilà.
Et on va en parler parce que l'une de vos personnages, effectivement, ramasse le plastique en Camargue. Tony Gatliff est sur France Inter ce soir et on parle de Tom Medina, le dernier film du réalisateur qui sort mercredi. Pena, yeah, pena, yeah, pena, let it all out. To cry if you feel pain. Pena de Caroline Rawson, extrait de la bande originale de Tom Medina, le dernier film de Tony Gatliff qui sort après-demain, mercredi, un titre que vous avez co-écrit, Tony Gatliff, pleure si tu as de la peine. Votre héros, Tom Medina, il est plein d'une énergie brute et c'est un homme qui pleure. Et ça fait du bien de voir un homme qui pleure.
Absolument. Et c'est... Bon, on va pas... parler de la fin du film, mais il pleure à un moment. Parce que normalement, il pleure pas. Un homme est élevé pour ne pas pleurer. Et là, à la fin, il pleure. Et c'est très important de pleurer. Et donc, moi, quand j'étais enfant, quand j'avais 12 ans, je pleurais pas, alors que je vivais une histoire terrible. Une histoire terrible dans mon existence. Mais je pleurais pas.
Vous avez vécu l'exil?
J'ai vécu énormément de choses dramatiques et malheureuses. L'exil, bien sûr, et aussi pas mal de choses qui sont... J'ai été dans la rue, j'ai été sans personne, j'ai été sans aucune tendresse pendant des années. Je connaissais pas la tendresse, absolument pas. C'est vrai que chaque soir, on a envie de pleurer, mais je pleurais pas. Alors que cette chanson, c'est vraiment comme elle est faite pour ça. C'est pleure si tu as de la peine. Pleure si tu as de la peine.
Et ce personnage de Tom Medina, il vous ressemble beaucoup, Tony Gatliffe?
Oui.
Vous avez mis beaucoup de vous-même en lui?
C'est exactement mon personnage quand j'étais enfant, quand j'avais été adolescent, et il a tous les traits quand j'étais jeune. Là, il est le même. Je me suis inspiré de mon enfance, de mon adolescence, disons, pour écrire mon histoire, mais je voulais pas faire un film autobiographique parce que les films autobiographiques ne marchent pas. Je sais très bien que ça ne marche pas parce que vous êtes obligé d'aller tout droit. Vous sortez jamais ni à gauche ni à droite, alors que la poésie, on va à droite, à gauche, on va comme on veut. Alors que c'est pour ça que j'ai fui l'autobiographie.
Pour
mais le
libre.
Film parle de mon enfance. Mmh. Il parle d'une époque terrible de mon enfance, terrible, parce que je me suis battu contre mon destin.
On va revenir sur ce film et sur ce personnage de Tom Medina. Tony Gatliffe, dans Le Nouveau Monde, comme dans l'Ancien, la musique tient toujours une place centrale. C'est indissociable pour vous, le cinéma et la musique?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est beau. C'est beau, la musique, c'est quelque chose qui berce, qui fait mal. Vraiment qui fait mal aussi. Et sans la musique, pour moi, il y a rien, il n'y a pas de cinéma, disons. Il n'y a pas autre chose, il y a beaucoup de choses qui sans la musique ne marchent pas. Mais dans mes films, la musique est très importante parce qu'elle guide. Elle n'est pas là pour être jolie. Elle n'est pas, parce que pour moi, la musique n'est pas jolie. La musique, c'est quelque chose de fort qui n'est pas joli. Elle a des choses à dire. Mais c'est pas quelque chose qui je dis ça berce, mais ça ne berce pas. Mes musiques à moi ne bercent pas, mais par contre elle soulage,
elles accompagnent les
oui,
émotions.
Oui, absolument. Elle, en tout cas, elle m'accompagne tout le temps dans mes films.
Vous êtes l'un des rares à avoir été primé à la fois en tant que réalisateur, prix de la mise en scène à Cannes en 2004 pour Exil, pour ne citer que celui-là, et pour la musique. Vous avez obtenu 2 Césars pour les musiques des films Vengo et Gaggio di Lo. C'était en 1997. Nora Luca de Monica Ruas Mitsoura, magnifique extrait de la bande originale de Gaggio di Lo, et vous me disiez, là la musique pleure.
Oui, là la musique pleure, et surtout avec la voix de Mitsoura, cette petite gitane de Hongrie, qui était extraordinaire, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et elle était d'une émotion quand elle chantait, c'était les larmes qui sortaient.
Votre dernier film, Tony Gatliffe, Tom Medina, donc, qui sort mercredi, suit l'itinéraire d'un jeune délinquant en réhabilitation, pris en charge par un gardien camarguais, Ulysse, incarné par Slimane Dazy. L'histoire de Tom, qui est interprétée par le ténébreux et magnifique David Murgia, c'est un peu la vôtre, on a commencé à en parler. Vous aussi, vous avez été placé, jeune homme, jeune adolescent délinquant en Camargue?
Tout à fait. J'ai été arrêté parce que j'étais dans la rue. C'est dans les années 60, après la pagaille qui était en Algérie. Donc tout le monde est parti un peu dans tous les sens. Et donc j'avais des problèmes. Je me suis retrouvé à Paris et j'avais des problèmes avec la justice parce que je faisais pas mal des choses qui ne devaient pas, qui doivent pas se faire, voler, bagarrer, tout ça, quoi. Et donc, j'ai été j'ai été arrêté par la police et les policiers, quand ils m'ont vu, je leur ai tendu les bras et je leur ai dit je suis content de vous voir. Et là, un des policiers m'a dit moi aussi et il m'a mis les menottes. Après, on s'est retrouvés au commissariat et ils ont commencé à me questionner. Et d'abord, ton nom, et j'ai donné le nom de Tony Gatliff parce que c'était un parc à Alger. Et quand je suis parti d'Alger, je suis parti avec le parc. Je l'ai amené avec moi, dans ma tête, dans mes poches, partout. C'était mon parc, parce que là-bas, c'est là-bas où j'allais tout le temps, c'est là-bas où j'allais guérir un petit peu mes blessures, dans ce parc-là. Et parce que j'étais cireur de chaussures, et j'avais énormément d'humiliation, comme ma famille d'ailleurs. Ma famille était souvent humiliée, souvent plongée dans la misère, et c'est pour ça que, vers l'âge de 14 ans, je me suis battu contre mon destin, et j'ai réussi.
Et vous êtes pris en charge par cet éducateur qui vous envoie en Camargue, parce que vous dites que vous aimez les chevaux.
Voilà, donc le juge pour enfants m'a envoyé en Camargue, chez cet éducateur qui est devenu mon maître. D'habitude, pendant toute mon enfance, je n'écoutais personne. J'écoutais aucun homme. Et là, pour la première fois, j'ai trouvé un homme, cet éducateur, qui s'appelait Claude Orange, qui s'appelle toujours, il est vivant. Et lui, j'ai écouté, et c'était un maître pour moi. C'est comme un maître, vraiment.
On écoute un extrait du film.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête tout d'un coup? On dirait que tu te régales à tout foutre en l'air. J'ai pris des risques en te confiant la promenade. Qu'est-ce qui s'est passé au radeau de l'aube? Pourquoi t'as disparu? Ne me mens pas.
J'ai été aspiré.
Oui.
Il est tellement bouleversé, imprégné par l'âme de cette Camargue, votre personnage de Tom Medina, qui se met à avoir des visions. Absolument. Ça vous est arrivé à vous aussi, ça?
Oui, bien sûr, absolument. Quand j'étais en Camargue déjà, et même aujourd'hui encore, quand je dis aspirer, c'est avaler. C'est-à-dire que des choses arrivent et on peut rien faire tellement c'est fort. Et donc on se laisse aller, comme aspirer. Quand j'étais en Camargue la première fois, j'étais aspiré par cette faune qui était extraordinaire pour moi, parce que c'était pas la France, je connaissais pas la France à ce moment-là, je connaissais surtout pas la Camargue. Et là, pour moi, ce n'était pas la France, la Camargue, c'était quelque chose qui appartenait aux animaux, qui appartenait aux chevaux, aux taureaux, et c'était quelque chose qui me plaisait énormément.
C'est une magnifique ode à cette nature sauvage, les chevaux, les taureaux, bien sûr, les flamants roses, et même les moustiques. Vous avez voulu filmer les moustiques.
Oui, bien sûr. Mais les moustiques, c'est je montre ça avec humour, parce que le maire de Arles, pendant ce temps-là, quand j'étais en train de préparer, qui s'appelait Hervé, aujourd'hui il est plus là, et il m'a dit donc voilà, c'est bien que tu viennes tourner ici, moi j'aime tes films, il aimait mes films, le flamenco et tout ça, et donc je lui ai dit, dites-moi, comment on fait pour se débarrasser des moustiques, parce que moi j'ai 40 personnes qui viennent de Paris et sont terrorisées à l'idée de se faire piquer par les moustiques. Il m'a dit la Camargue, chez nous, on la prend ou on la prend pas. On l'apprend avec ses moustiques. Alors, de toute façon, moi...
Vous l'avez prise avec les moustiques. Pour revenir à la musique, Tony Gatliff, puisqu'on y revient toujours, je le disais, vous êtes co-auteur de la bande originale avec votre compositrice attitrée Delphine Mantoulet. Et on passe des chants gypsy au rock hurlé de l'étonnante Caroline Rossen. Encore elle, elle est comédienne et chanteuse puisqu'elle joue Stella, la fille d'Ulysse, maréchal ferrant le jour. Elle se transforme en chanteuse de pop brutal la nuit. Passo doblé de Caroline Rossen, la voix caverneuse de Caroline Rossen. Quelle trouvaille! Comment vous l'avez...
Je l'ai trouvée à Avignon, au Festival d'Avignon, mais moi je ne vais pas souvent au Festival d'Avignon, mais là j'étais présenté à un de mes films qui s'appelait Jam, et j'ai la personne qui m'a accompagné, officielle, qui m'avait invité, je lui avais demandé, vous n'avez pas rencontré dans tout le festival une jeune femme, pas folle, mais complètement tarée, complètement tarée. Et donc ils m'ont dit si j'en ai, elle m'a dit si j'en ai une, j'en ai vu une. Elle s'appelle Caroline Zun et elle joue dans une pièce. Et voilà, donc c'est parti comme ça.
Merci beaucoup Tony Gatliff, Tom Medina. Ça sort mercredi. Allez le voir. Merci beaucoup d'être passé par France Inter ce soir. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Collier à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission, sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc. Et à la technique ce soir, Mathias Alléon. À demain avec le sociologue Emmanuel Bobatti et l'auteur, compositeur et interprète Albin de la Simone. Après le journal, vous retrouvez Le Téléphone Sonne avec Marion Lourd. Ce soir, comment ça va l'hôpital? Il est 19h, vous écoutez France Inter.